le roi n'ignore rien de la mauvaise conduite de son futur gendre et de l'affront que représente pour Jeanne son refus de lui rendre visite. Il va donc se faire menaçant. Les écuyers du duc sont prévenus. S'ils continuent à entraîner Louis à résister à la volonté royale, ils iront croupir dans un cul de basse fosse. Contraint et forcé, Louis se hasarde donc à faire quelques visites à Lignières. Mais face à l'accueil aimable de la princesse, il se conduit comme un mufle, ne lui répond pas, lui tourne le dos et ne s'exprime qu'avec des tiers. Sa grossièreté fait monter les larmes aux yeux de la jeune fille, qui tente de les dissimuler. Quant à lui, il retourne à sa vie facile dès qu'il le peut. De passage à Bourges, le roi qui ne voit jamais... De passage à Bourges, le roi qui ne voit jamais sa fille demande alors au baron de Lignières de la lui amener. Ce dernier s'exécute et se présente à la demeure royale, donnant le bras à la princesse. Le roi qui les guette depuis une fenêtre est effondré. Il déclare qu'il ne la croyait pas aussi handicapée et semble regretter d'avoir arrangé son mariage. À sa fille, il n'adresse que quelques paroles de politesse et demande au baron de la reconduire à Lignières. Regret ou non, le roi continue cependant à accélérer les préparatifs du mariage. Une dispense est demandée au pape, car les fiancés sont cousins. Le contrat de mariage est signé et la cérémonie fixée au 8 septembre 1476, en l'honneur de la nativité de la Vierge Marie. Ni le roi, occupé à faire pèlerinage, ni la reine ne sont présents. Du côté du fiancé, la duchesse d'Orléans brille également par son absence, sans doute pour montrer son désaccord. Elle est auprès de sa fille Marie. Ce 8 septembre, c'est au chancelier d'Auriol qu'il échoit d'annoncer la décision royale aux futurs époux. Il le fait sans prendre de gants. Effondré, le duc Louis fond en larmes. L'évêque d'Orléans le prend à part pour le raisonner. Et lorsqu'il lui demande solennellement s'il veut bien épouser Jeanne, Louis répond « Que pourrais-je faire d'autre? Je ne saurais résister. Il me faudrait encore être mort que faillir à le faire, car vous savez à qui j'ai affaire. » L'évêque pose la question une seconde fois pour entendre cette réponse. « J'y suis forcé et il n'y a pas de remède. » De son côté, Jeanne, toute petite et fragile, apparaît comme noyée dans une somptueuse robe. De son côté, Jeanne, toute petite et fragile, apparaît comme noyée dans une somptueuse rose... Oh ! De son côté, Jeanne, toute petite et fragile, apparaît comme noyée dans une somptueuse robe de brocart d'or. Elle pleure elle aussi en constatant la douleur de son fiancé et la répugnance manifeste qu'il montre à son égard. La bénédiction nuptiale leur est donnée par l'évêque qui se retire rapidement, honteux d'avoir dû se prêter à cette consternante cérémonie. Dès que possible, les mariés qui boudent le banquet magnifique et les diverses réjouissances organisées en leur honneur se retirent chacun de leur côté. Le duc chevauche vers Blois et la princesse, qui n'a que 12 ans, retourne en litière à Lignières. L'assistance est bien consciente du drame qui se joue, mais tous restent impuissants face à la volonté royale. Chacun sait bien que le jeune duc ne sera jamais un véritable époux pour Jeanne. Tous admirent la dignité et la soumission de la toute jeune fille, qui renonce à ce qui lui tient le plus à cœur. Nourrie d'une haute spiritualité franciscaine, elle n'aspire qu'à entrer au couvent. À Lignières, elle retrouve l'affection des beaux jeux et la consolation qu'elle éprouve lors des fréquentes visites du frère Jean de La Fontaine. Cependant, son mari, sans doute sur ordre royal, vient la chercher pour la faire entrer de façon solennelle dans sa ville de Blois. Nobles et bourgeois de Blois plaignent le jeune homme et montrent une grande compassion envers sa jeune épouse, si grave et digne. Le duc, quant à lui, continue de défrayer la chronique. Il est alors amoureux fou d'une fameuse prostituée qu'il a installée dans un hôtel près du château. Toujours entouré de ses compagnons de débauche, il mène joyeuse vie et dépense sans compter. À Lignières, la dévotion de Jeanne à la Passion du Christ va croissant. Elle la revit, toujours en union étroite avec Marie, sa mère qu'elle appelle la Bénie Vierge Marie, et dont on sait qu'elle lui parle directement au cœur. la Vierge Marie, debout face à la croix, est son grand modèle. Sa spiritualité se nourrit d'une imitation de Marie. Cela se traduit par une charité de tous les instants. Dans les moments difficiles, elle observe le silence et se montre d'une grande dignité, celle innée de son sang royal et surtout celle de Marie. De son côté, Jean XI s'inquiète. Que son gendre mène une vie dépravée et dispendieuse ne le dérange guère. Mais il ne faudrait pas qu'il se targue de la non-consommation du mariage pour en demander la nullité. La famille d'Orléans est donc menacée de représailles si le duc ne se rend pas à Lignières au moins une fois par mois pour y passer quelques jours. Le duc obtempère, se fait accompagner par ses joyeux compagnons de plaisir qu'il installe dans les auberges du coin avec quelques dames de petite vertu. Il finit par apprécier ses séjours et va les renouveler jusqu'au décès de son beau-père. La suite est sordide. Le roi installe ses espions afin de savoir si le duc remplit son devoir conjugal. Mais ces derniers refusent de jouer ce rôle dégradant. Louis XI n'hésite pas à les faire torturer. La vie du duc lui-même est menacée. Aussi se résigne-t-il enfin à faire chambre commune avec son épouse. Ont-ils eu des relations conjugales? Louis le niera toujours. Lors du procès d'annulation de mariage, Jeanne assurera qu'elle a bien été mariée selon la chair. Elle dira même clairement qu'elle n'était atteinte d'aucun défaut corporel qui eût pu l'en empêcher. Ses paroles semblent davantage dignes de confiance que celles de son époux. Ce dernier, toujours aussi mufle, ne se contente plus d'installer ses amis de débauche dans les auberges des environs. Il fait expulser Jeanne et ses suivantes de ses appartements pour y recevoir des prostituées. La malheureuse princesse reçoit tous ces affronts sans se plaindre. Elle n'a pas demandé ce mariage, mais à présent qu'il a lieu, elle en considère le caractère sacré et s'estime, de ce fait, liée devant Dieu à cet époux auquel elle s'attache en dépit de tout. Elle s'efforce de l'aimer et de lui pardonner tout, quoi qu'il fasse. Quand il se trouve à Bourges, il y contracte la variole. Sans craindre la contagion, la princesse vole à son secours et demeure auprès de lui jusqu'à ce que tout danger soit écarté. En guise de remerciement, il se retourne sur sa couche sans la regarder et elle s'en retourne tristement à Lignières. À 60 ans, la santé du roi n'est pas bonne. Ses forces déclinent et il s'inquiète de laisser un trône vacant, son fils Charles n'étant âgé que de 13 ans. Il se préoccupe donc d'une régence qui devrait logiquement revenir à la famille d'Orléans, donc au duc Louis, ce qui lui semble inconcevable. En dépit de la loi salique, il désigne sa fille aînée Anne et son mari Pierre de Beaujeu et convoque Louis d'Orléans pour qu'il fasse allégeance au dauphin Charles. Celui-ci jure tout ce qu'on voudra sur l'évangile, notamment de ne pas s'allier au grand seigneur du royaume, serment dont il ne s'en... Celui-ci jure tout ce qu'on voudra sur l'évangile, notamment de ne pas s'allier au grand seigneur du royaume, serment dont il ne tiendra aucun compte. Du vivant de Louis XI, le duc envoie déjà un émissaire au duc de Bretagne, François II, père de la duchesse Anne. Pendant ce temps, Louis XI tente de retarder l'issue fatale en cumulant neuvaines, pèlerinages, reliques vraies ou fausses. Après une courte agonie, il décède le 14 août 1483 et meurt en murmurant une prière à la Vierge Marie. Il est enterré, comme il l'a demandé, à Notre-Dame de Cléry. Il avait fait construire cette église ruinée en offrant son propre poids d'argent en guise de remerciement pour la prise de Dieppe aux Anglais. Pour les grands féodaux, la faiblesse du pouvoir désormais confiée à un enfant, futur Charles VIII, et à sa sœur aînée, seulement âgée de 21 ans, est une aubaine. S'ensuivent des aventures politiques et guerrières où Louis d'Orléans joue toujours un rôle déterminant. mais cette fronde se heurte à la régence qu'exerce Anne de Beaujeu avec grande habileté politique et autorité. Tout d'abord, elle fait venir sa sœur Jeanne à la cour d'Amboise, ce qui permet à cette dernière de revoir sa mère, la reine Charlotte, avant son décès la même année 1483. Geste d'affection, peut-être. Mais geste politique, sûrement. Car la régente redoute par-dessus tout l'annulation du mariage de sa sœur Jeanne, ce qui permettrait à Louis d'Orléans d'épouser Anne de Bretagne, qu'il convoite depuis longtemps. Si Jeanne, qui ne peut avoir d'enfant, reste mariée, les biens de la famille d'Orléans tomberont quelques jours dans l'escarcelle des rois de France. Anne de Beaujeu reprend là à son compte le raisonnement de son père Louis XI. Jeanne est tout à fait consciente d'être non pas considérée pour elle-même, mais pour l'enjeu politique qu'elle représente. Car nul ne se soucie de ce qu'elle pense. En Dieu seul, elle trouve sa force et son silence. Amie de notre Seigneur, c'est en méditant sa passion qu'elle plonge le courage de... Non. Amie de notre Seigneur, c'est en méditant sa passion qu'elle puise le courage de supporter les manœuvres et les affronts dont elle est l'objet. À Amboise, Jeanne s'installe dans une aile du château qui lui est désormais réservée et elle bénéficie d'une pension que lui alloue sa sœur, régente du royaume. Louis, son époux, lui rend parfois visite tout en lui manifestant la même froideur. Ses démarches n'ont rien de spontané. Elles lui sont dictées par son entourage et surtout par sa mère. En réalité, furieux de ne pas avoir obtenu la régence, il ne cesse de comploter contre le pouvoir en place, avec pour principal partenaire le duc François II de Bretagne. Ce dernier veut échapper à la tutelle du roi de France. Il signe avec Louis un contrat prévoyant son mariage avec la jeune duchesse Anne contre un soutien militaire immédiat. Ceci n'empêche pas Louis de jouer un rôle de premier plan au sacre du roi Charles VIII le 30 mai 1484. Toute la cour assiste à cette fête grandiose. Toutes ? Pas tout à fait. Jeanne, la sœur du roi, ne figure pas sur la liste des invités. Au moins, son mari n'aura pas l'occasion de lui infliger sa grossièreté en public. Loin du bal et des réjouissances, elle se réfugie dans son oratoire. Anne de Beaujeu fait surveiller Louis. Elle apprend ainsi qu'il est allé à Rome demander au pape l'annulation de son mariage. Elle intervient à son tour et obtient l'arrêt de la procédure. En France, Louis continue ses intrigues et s'efforce de soulever le Parlement contre le Conseil de Régence et doit s'enfuir, d'abord en Normandie, puis à Beaugency, petite ville fortifiée où il est assiégé par l'armée royale. Après 2 mois de siège, il capitule et ne doit son salut qu'à l'affection que lui porte le jeune roi. Celui-ci admire son aîné pour ses prouesses, sa témérité, sa prestance. Pendant quelque temps, Louis fait profil bas, mais il poursuit ses machinations en secret. Jusqu'à ce jour de janvier 1487, où il s'enfuit à Nantes rejoindre François II de Bretagne, qui ne cesse de provoquer le roi de France. C'est la guerre. La Bretagne est envahie. En 1488, une bataille sanglante entre Français, d'une part, Bretons, Anglais et Espagnols, de l'autre, met fin à cet épisode appelé « guerre folle ». Louis est prisonnier et pendant 3 ans sera transféré de prison en prison. Jeanne se comporte en parfaite épouse. Elle n'a que peu de moyens, les biens de Louis étant sous séquestre. Elle vend donc vaisselle d'argent et bijoux pour venir au secours de son mari et essayer d'adoucir les conditions d'incarcération très dures. Compte tenu de l'attitude injurieuse de Louis vis-à-vis d'elle, elle aurait pu se tenir à l'écart. Ce serait oublier le lien sacré qui l'unit à son mari, qu'elle aime envers et contre tout. À propos de cette période, la chronique de l'Annonciade écrit « Jamais on n'avait vu ni aperçu qu'elle l'aimait de si parfait amour que depuis qu'il était dans cette tribulation. » Sainte Jeanne recommande de vivre chastement et vertueusement, chacun selon son état, en faisant mémoire de la mort et de la passion de notre Seigneur, car c'est d'elle que procèdent tous les pardons que nous recevons. Au pied de la croix de Marie, au pied de la croix, avec Marie, recueillons. Au pied de la croix, avec Marie, recueillons-nous et prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.